Salut Raphaël.
Salut Pat.
OK, tu veux nous parler de la déchéance du gouverneur de New York, M. Mario Cuomo, là, qui était porté au nu pendant la pandémie pour sa gestion, pour son ton rassurant. Ben, il semble qu'en coulisses, c'est un goujat.
Ben écoute, c'est assez spectaculaire, franchement, comme trajectoire politique, parce que tu as eu une espèce de montée météorique l'an dernier. On en a parlé d'ailleurs souvent à l'émission au printemps dernier, parce qu'il était vu comme l'espèce de visage d'opposition à Donald Trump à l'époque, là, qui disait n'importe quoi, était super insouciant, etc. Donc, c'est amassé un énorme capital de sympathie. Mais là, depuis les dernières semaines, les derniers mois et les dernières heures, c'est une chute dramatique à laquelle on est en train d'assister. Pourquoi? Ben, deux choses. Je te mets peut-être la table avec ce qui s'était passé avant aujourd'hui. La région de New York a toujours, on le sait, le pire bilan de mortalité lié à la COVID aux États-Unis. Et il y a une grosse partie de ça qui est attribuée à l'ordre du gouverneur Cuomo donné au foyer de personnes âgées au printemps dernier d'accepter des patients infectés. Bon, ça, on le savait. Ce qu'on savait pas jusqu'à relativement récemment, c'est que les chiffres étaient pas bons. Même les chiffres qui étaient très dramatiques étaient inexacts. Et ça, en fait, c'est le bureau de la procureure générale de l'État, qui fait de la ministre de la Justice, qui est sorti sur la place publique pour dire, écoutez, les chiffres que l'administration de M. Cuomo nous a donnés, c'est au moins le double dans les faits. Et là, ça s'est suivi d'une employée directement de M. Cuomo qui est sortie, elle aussi, à son tour pour dire que, écoutez, c'est pas juste que les données sont inexactes, c'est qu'elles ont été délibérément falsifié par l'équipe du gouverneur pour essayer de cacher la situation. Fait que c'est extrêmement grave. Comme c'était pas assez, on apprend aussi que dans un autre décret, Cuomo a donné une sorte de protection légale aux dirigeants d'hôpitaux et de foyers de personnes âgées après que ces derniers lui aient donné à peu près 2 millions de dollars pour essayer de sa cagnotte électorale. Fait que tu sais, ça pue tellement que le FBI annonce qu'il ouvre une enquête criminelle. Et ça, comme je te dis, c'était le préambule. Ça, c'était avant aujourd'hui.
Ça c'est pour le volet professionnel.
Exactement.
Mettons ça comme ça, là.
Exactement. Ça, c'était le volet professionnel. Là, je te parle de ce qu'on a appris aujourd'hui qui découle davantage du domaine personnel, mais qui a eu lieu, ou aurait eu lieu dans le contexte professionnel. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Une autre de ses ex-employés qui déballe son sac sur son expérience qu'elle a vécue en travaillant pour lui. Elle décrit le climat d'intimidation, de harcèlement sexuel qui allait, selon elle, main dans la main. C'est-à-dire qu'il harcelait continuellement plusieurs femmes et quand ces dernières essayaient de faire valoir leur point ou de se défendre, bien là, c'est une campagne d'intimidation pour les faire taire. Et elle donne une série d'exemples. Écoute, ça donne froid dans le dos, là. À l'ère MeToo, malheureusement, c'est pas le premier cas qu'on entend. Mais ça sonne quand même quand on lit ça. Donc, exemple, il est collé sur elle dans un avion, lui demande de jouer au strip poker.
Strip poker, là, c'est un poker où on enlève des vêtements quand on perd.
C'est ça. Et doit-on le rappeler, la femme en question, elle est mariée. Pas que ça, évidemment que ça rendrait ça plus légitime si elle ne l'était pas, mais t'ajoutes cette couche-là. Elle ne lui fait absolument aucune avance de quelque nature que ce soit. Fait que c'est pas comme si on pouvait peut-être interpréter ça là, de sa part comme étant légitime. Ça ne l'était aucunement. L'a fait venir à un autre moment, seule à son bureau privé, pendant une réception de Noël, pour lui montrer avec une espèce de sourire en coin une boîte de cigares qu'il dit avoir reçue de Bill Clinton. C'est pas besoin d'un génie pour comprendre la référence à Monica Lewinsky. Et peut-être le punch de tout ça, à la fin d'une rencontre qui est censée être de nature professionnelle, il essaie carrément de l'embrasser sur la bouche, encore une fois, sans aucune espèce d'invitation. Elle décrit un climat de terreur carrément qu'elle a vécu, non seulement pendant toute cette période-là, mais même aujourd'hui, pour ce qui est de simplement dévoiler ça, parce qu'elle a peur des conséquences à cause, encore une fois, de sa façon de gérer ce genre d'histoire-là. Et comme c'était pas assez, tu as eu également aujourd'hui l'ex-attaché de presse de M. Cuomo, donc une autre femme qui est également sortie pour dire que travailler pour lui, c'était l'équivalent d'être coincé dans un mariage dans les années 50. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Pour quelqu'un qu'on voyait comme un possible président un jour, là, la question, Pat, à ce stade-ci, c'est pas est-ce qu'il va se lancer dans une course présidentielle, c'est est-ce qu'il va même pouvoir finir son mandat de gouverneur? Fait que tu sais, quand je te parle d'une trajectoire spectaculaire, là, ben c'est ça.
Et parle-moi d'un autre État où il y a un autre élu là, qui est dans le pétrin.
Écoute, C'est pas la journée, je te dirais, lors de laquelle la classe politique américaine brille. Autre scandale excessivement grave. Je te parle du procureur général du Dakota du Sud. Là, je sais que ça va peut-être avoir l'air loin des priorités des gens qui nous écoutent, mais c'est quand même dramatique comme histoire. Je t'explique pourquoi. Le procureur général, doit-on le rappeler, c'est l'équivalent, encore une fois, du ministre de la Justice. C'est le numéro un de la justice au sein d'un État américain. Il est au volant de son véhicule un soir, l'automne dernier, et il frappe quelqu'un. Au volant. Il dit initialement aux enquêteurs qu'il ne sait pas ce qu'il a frappé. Peut-être un chevreuil, peut-être un autre animal, bon. Mais là, plus on enquête, plus on se rend compte qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas, notamment le fait qu'on découvre en fait des lunettes dans son auto, alors que lui-même n'en porte pas. À un moment donné, les enquêteurs lui disent, écoutez, on sait carrément qu'il y a un visage qui est passé à travers votre windshield, en bon français. Donc là, ce type-là, évidemment, ça a éclaté, oui, dans son état, mais c'est rendu carrément dans les pages du New York Times aujourd'hui. Et où ça ratisse beaucoup plus large, c'est que, on se parlait de gouverneur avec des possibles ambitions présidentielles, mais la gouverneure républicaine actuelle du Dakota du Sud caresse très activement elle-même des ambitions présidentielles en vue 2024. Donc, cette affaire-là, c'est en train, évidemment, d'éclater dans son visage, même si elle n'est pas personnellement responsable, parce que ce type-là fait partie de son équipe. Et donc, elle l'a appelé aujourd'hui à démissionner. Et s'il n'accepte pas, ben crois-le ou non, on pourrait avoir quelque chose de qui est presque sans précédent, c'est-à-dire l'Assemblée législative de l'État, un petit peu l'équivalent du Congrès là, de l'État, qui pourrait voter pour le destituer. Mmh. Parce que oui, tu peux impeacher, tu peux destituer un président des États-Unis, mais tu peux aussi faire ça pour un membre du cabinet d'un gouvernement d'État. Et que ça arrive pour le procureur général, encore une fois, la personne qui est censée incarner la défense de la loi. Encore une fois, on voit pas ça tous les jours.
À demain, Raphaël.